Hello à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur le podcast C'est qui la bosse, le podcast qui met en lumière les femmes inspirantes. Aujourd'hui, je reçois Marie-Amélie Le Fur. Il serait difficile de résumer le parcours de Marie-Amélie en quelques mots, tant il est extraordinaire. Multiplement médaillée, cette sportive de haut niveau, membre de la team Toyota, a su faire d'un handicap une force en poussant chaque jour de jeunes sportifs à avoir l'audace et le courage de se dépasser pour atteindre les sommets. Elle est également l'une des voix du handisport en France, avec la volonté de rendre ses disciplines toujours plus visibles. Rencontre avec une sportive pas comme les autres qui a su faire de ses rêves une réalité. Bonjour Marie-Amélie.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Comment ça va ?
Plutôt bien,
Je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler évidemment de ton engagement avec les Jeux de Paris qui arrivent, de ton parcours. En fait, on va faire un petit 360 sur l'ensemble de ta vie et de ton parcours qui est en fait hyper inspirant. Donc j'ai hâte de faire découvrir tout ça à nos auditeurs et nos auditrices. Et
pour ma part, hâte de le partager.
Donc on va commencer très très simple par une question basique. Tu rêvais de quoi quand tu étais enfant ?
Alors moi, j'avais des rêves très simples hein, quand j'étais petite fille. Déjà, j'aspirais à être heureuse, tout simplement.
C'est déjà beaucoup.
Mener une vie de femme. Et j'avais pour ambition, à peu près vers l'âge de 10 ans, de devenir sapeur-pompier. Je me souviens que je me suis beaucoup posé de questions sur mon avenir. Et j'hésitais entre plusieurs métiers, notamment celui de professeur de sport. Et un jour, ma maman va avoir une phrase très éclairée et me dire « Mais Marie-Amélie, tu sais... tu ne pourras jamais être professeur de sport parce que tu ne comprendras pas que tes élèves n'aiment pas le sport autant que toi. » Et je pense qu'elle avait une vision très juste. Et donc, je me suis dit, OK, bah, si je ne peux pas être professeur de PS, je vais plutôt aller peut-être dans ce métier de pompier. Pourquoi le choix de ce métier ? Parce que je pense que j'ai énormément d'empathie. C'est un des traits de caractère qui me caractérise énormément. J'aime l'adrénaline, j'aime l'incertitude et j'ai besoin d'un métier où on s'engage physiquement. Donc finalement, le métier de pompier correspondait pleinement à ces attentes-là. Et puis après, je m'épanouissais au travers du sport, mais sans finalement avoir d'ambition ou de rêve de faire les Jeux. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs olympiques ou paralympiques qui ont depuis tout petit finalement ce rêve un jour de faire les Jeux. Moi, de ce que je me souvienne, ce n'était pas du tout ce qui m'animait. Voilà, je voulais juste me challenger, mais je prenais chaque étape l'une après l'autre.
Donc, quand même, le sport a toujours plus ou moins fait partie de ta vie depuis toute petite.
Ça, par contre, effectivement, quand bien même je rêvais pas forcément des Jeux, depuis toute petite, je fais du sport, hein, puisque moi, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans, sous l'impulsion de ma grande sœur. Voilà, elle voulait absolument faire de l'athlé, elle voulait pas en faire toute seule. Donc, je l'ai suivie dans cette aventure. Puis les premiers mois, les premières années, c'était pas forcément l'amour fou avec ce sport. Et derrière, c'est mes parents qui ont pris le relais, qui m'ont encouragée à continuer. Et puis après, ce sport, c'est devenu une évidence pour moi. C'est devenu un réel besoin dans le quotidien pour différentes raisons. La première, déjà, c'était un secteur dans lequel j'étais en réussite, où je gagnais des petites médailles, où j'avais des résultats, où j'arrivais à me challenger. Et finalement, quand on a ces réussites, ça permet aussi d'entretenir la confiance en soi, l'estime de soi.
Et le goût du challenge aussi.
Exactement, ouais. Donc j'étais vraiment dans ce cercle vertueux où le sport me mettait parfois en difficulté, mais il me nourrissait aussi énormément et j'étais fière finalement de ce que je faisais. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le lien social que je trouvais dans le sport. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas forcément suffisamment, mais c'est pour moi tout l'intérêt aussi de pratiquer au sein d'un club. C'est que j'étais avec... on courait avec, je m'entraînais avec des jeunes garçons et des jeunes filles de mon âge. Et c'était une amitié sincère, réelle, qui était très forte. Et puis après, cette confiance et cet échange avec l'entraîneur. Et moi, j'aimais finalement aller à l'entraînement pour retrouver ces personnes-là, pour partager avec eux des moments.
L'idée de faire partie d'un groupe, en fait, d'aller tous dans la même direction.
Ouais, en fait, en tout cas, le sentiment d'appartenance. Après, tous la même direction, pas nécessairement, parce que c'est aussi la beauté et la richesse de l'athlé, c'est qu'au sein d'un même groupe, tu vas avoir des sprinteurs, des sauteurs, des demi-fondeurs, on aimait tous des choses très différentes. Par contre, on avait cette même passion du sport, du défi, de la compétition, et il y avait aussi des niveaux très différents. Certains, en fait, avaient juste pour ambition de participer, là où d'autres avaient vraiment cette ambition, c'était de gagner, de battre des records. Et c'est ce que j'aime, en fait, au sein d'un club, c'est qu'on va retrouver cette pluralité, cette diversité des profils, des points de vue, des parcours. Et tu te retrouves à échanger avec ces différentes personnes-là et à te nourrir finalement de leur expérience.
Alors, il y a un petit événement, un gros événement qui va venir un petit peu chambouler ton adolescence. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Donc effectivement, donc moi jusqu'à l'âge de 15 ans, donc je vais m'investir assez fortement dans l'athlétisme, dans l'univers des pompiers, puisqu'à l'âge de 10-11 ans, je rentre aux jeunes sapeurs-pompiers, vraiment ouais, avec cette, vraiment, voilà, cette ambition.
Une envie de toujours...
Ouais, c'était vraiment une ambition, ouais. J'avais déjà construit mon parcours professionnel. Et le 31 mars 2004, c'est vrai que ma vie va changer du tout au tout, puisque je suis victime d'un grave accident de la circulation. Mmh. Et en raison de la gravité des blessures, 3 jours plus tard, les médecins vont prendre la décision de m'amputer. Oui. Voilà, donc c'est un moment qui est marquant. Du jour au lendemain, finalement, la vie bascule. C'est la perte de certains rêves, hein, puisqu'avec cet handicap, je ne peux plus devenir pompier. Mais très rapidement, et ça va véritablement être un moteur pour nous, et quand je dis nous, c'est moi, ma famille, mes proches, tous mes amis. Finalement, le sport va apparaître comme un moteur de reconstruction, mais aussi un moteur pour arriver tout de suite à être dans un cercle vertueux et très positif. En fait, grâce au sport et à cette projection, on ne vivait pas dans le passé. On n'a pas cherché en fait, à refaire le passé, à s'apesantir sur ce qu'on vivait, mais on s'est tout de suite projeté et on a continué avec cette ambition un jour de reprendre le sport. On ne savait pas quand, on ne savait pas comment, mais on savait que c'était un besoin qui était nécessaire pour nous pour avancer et se projeter dans l'avenir.
Donc en fait, arrêter le sport n'a jamais été une éventualité pour toi, c'était impossible.
En fait, ça l'a été dès l'instant que les médecins cherchaient à sauver ma jambe. En fait, les 3 premiers jours, le diagnostic était que si les médecins arrivaient à sauver ma jambe, je ne remarcherais jamais normalement et donc je ne ferais pas de sport. Et je pense que le fait d'être amputée et de pouvoir refaire du sport avec cette amputation m'a aussi aidée dans l'acceptation de mon handicap. Parce que finalement, je regagnais quelque chose que j'avais perdu pendant quelques jours. Et surtout, ce qui a été déterminant, c'est que je savais qu'on pouvait faire du sport avec une prothèse. Oui. Et ça, en fait, ça a changé notre vie, puisque en fait, de façon totalement insignifiante, un an plus tôt, je me rends au championnat du monde d'athlétisme qui avait lieu au Stade de France parce que j'avais gagné un stage. Donc le matin, on s'entraînait, l'après-midi, on allait au championnat du monde.
Okay.
Et sur cette semaine-là, un après-midi, je vais assister à une course en fait, handisport avec des athlètes amputés hommes qui vont faire comme ça un 100 mètres. Donc à ce moment-là, je vis le moment, je l'ancre dans les souvenirs, mais finalement, je tourne la page. Sauf qu'un an plus tard, quand on me parle de prothèse, d'amputation, eh ben, je sais qu'avec cette amputation, je peux recourir et donc retrouver ma passion du sport. Mais encore une fois, à ce moment-là, on ne parle pas de haut niveau. On parle simplement de reprendre, de se faire plaisir et de se reconstruire grâce au sport.
Donc finalement, quelque chose qui aurait pu devenir carrément un coup de massue ou une fatalité, pour toi, si ça a été la chance de pouvoir rebondir?
Bah, après coup, oui, je le vois comme une chance de rebondir. Mm-hmm. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Moi, j'étais confrontée à un choix, et pas que moi, ma famille et moi, on était confrontés à un choix. Soit on décidait de s'apesantir et estimer que ce qu'on vivait, c'était dramatique, et donc finalement perdre du temps dans un processus que de toute façon, on ne pourrait pas changer. L'amputation, elle était présente, le handicap aussi, et ce serait à vie. Donc à un moment donné, on a décidé finalement très vite d'agir, de réagir pour ne pas vivre dans le passé et accepter que finalement, cette vie, elle serait différente, mais qu'elle n'était pas nécessairement moins belle. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel, c'est de se dire que oui, il y a des opportunités qui sont gâchées par le handicap, mais en tout cas, moi, dans ma situation de handicap, derrière, dès l'instant qu'on a pris notre destin en main, ça m'a ouvert des nouvelles opportunités absolument extraordinaires. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télé, j'ai voyagé dans le monde entier. Enfin, j'ai eu la chance, en fait, de vivre une vie extraordinaire. Et surtout, et ça, je pense que c'est ce que le plus que m'a apporté le handicap, j'ai fait des rencontres de vie absolument formidables. Enfin, avec des gens qui, certes, ont des parcours de vie qui sont cabossés, qui sont difficiles, avec des parcours de vie qui sont semés d'embûches, mais ils sont terriblement enrichissants, ces parcours de vie-là. Et ça m'a beaucoup appris sur moi, sur la femme que je suis, sur la femme que j'ai envie d'être, sur la citoyenne que je devrais être aussi pour agir. Et donc, ça a été des enrichissements qui m'ont ouvert sur une vision un peu plus 360 de la vie.
Donc, on reprend un petit peu le fil. Donc, tu sors de l'hôpital, tu commences ta rééducation et de suite, est-ce qu'il y a des challenges qui se sont présentés à toi? Comment on fait aujourd'hui en France ou au moment de ton accident ou quand tu recommences à reprendre le sport pour pratiquer le sport avec un handicap? Est-ce que tu as trouvé facilement? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été un parcours du combattant? Si tu peux un petit peu nous expliquer tout ça.
Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vécu le paradoxe que vivent, je pense, énormément de personnes en situation de handicap. Donc, j'ai mon accident. Quelques jours plus tard, je pars en centre de rééducation. Et là, très rapidement, le sport va être vu d'un point de vue médical comme un véritable levier de reconstruction du corps, de reconstruction, de compréhension, de réhabilitation du corps. Et donc, je vais faire de la natation, je vais faire du vélo, je vais faire de la marche, je vais faire, alors pas de la course, mais en tout cas, le sport va vraiment faire partie intégrante de mon modèle de reconstruction. Et donc, je le fais au centre de rééducation. Mes instructeurs chez les pompiers prennent le relais pour qu'on ait une continuité, finalement, de ce sport thérapeutique. Je vais l'appeler comme ça. Et quand quelques semaines plus tard, parce que ça a été un petit peu vite, je ne suis plus au centre de rééducation. Et là, je demande finalement au corps médical de me signer un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive, parce que je souhaite participer au tournage d'un film. Et donc, j'ai besoin d'avoir ce certificat pour pouvoir reprendre la pratique sportive. Et bien là, je me retrouve confrontée au veto du corps médical qui estime que le sport, c'est pas bon, que le sport, c'est trop tôt dans mon parcours de vie. Alors, quelques semaines plus tôt, finalement, ça faisait partie vraiment intégrante de ma rééducation. Ouais. Donc ça, c'est un véritable paradoxe où en fait, dès l'instant que le sport est thérapeutique, on le trouve positif, mais dès l'instant qu'on est sur du sport, en fait... soit en pratique, j'étais même pas sur du compétitif. C'était en fait une pratique autonome en club, mais là ça a été très compliqué en fait d'avoir l'aval du corps médical, chose qu'on a fini par avoir. Et derrière, l'autre difficulté à laquelle j'ai été confrontée et sur laquelle je suis fermement engagée pour agir actuellement, c'est la difficulté de trouver un club en fait à proximité de chez moi, parce que moi je cherchais une pratique entre pairs, c'est-à-dire avec d'autres personnes en situation de handicap, parce que c'est ce que j'avais besoin au moment de mon accident. Et ben, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un club. Il a fallu que je sorte de mon département, que je rencontre une femme qui était absolument formidable, qui s'appelait Marie-Rose Perrin et qui était une convaincue, une des acharnées de la première heure pour ouvrir le sport aux personnes en situation de handicap. Et derrière, quand je l'ai rencontrée, elle m'a ouvert les portes de son club, et ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et un an plus tard, de me licencier, là, pour le coup, dans un club de proximité qui était à la base un club valide, mais qui m'accueillait dans ma différence. Donc ça, c'est vraiment aussi un des enjeux, c'est que demain, il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que les différents clubs qui sont à proximité des personnes en situation de handicap, pour pas avoir à faire trop de trajets, se sentent en capacité et ouvrent leurs portes, quelle que soit la différence et la diversité de la personne.
Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Comment tu obtiens ta première prothèse? Enfin, il me semble qu'il y a une histoire justement derrière cette première prothèse.
Oui, c'est vrai que l'autre contrainte que j'ai très vite levée. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est important de le dire, c'est que normalement, quand vous êtes une personne en situation de handicap et que vous voulez reprendre le sport, c'est vraiment un parcours qui est semé d'embûches. Vous n'avez que des difficultés. Et en fait, moi, j'ai eu un tel alignement des planètes que, en fait, toutes les difficultés, elles se sont levées. J'ai eu la chance, déjà quand j'ai formulé au moment de l'accident cette volonté de recourir, que mes parents et mes proches ne me prennent pas pour une folle et qui m'encouragent, qui m'accompagnent. Derrière, il y a eu le tournage d'un film. Alors là, c'est juste d'un téléfilm. Donc, je me retrouve convoquée par le médecin au centre de rééducation. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore de mal? J'étais un peu dissipée et je respectais pas toujours les consignes, donc le médecin me convoque, et en fait c'était pour quelque chose de très positif, puisqu'il voulait me parler du tournage d'un téléfilm qui cherchait une adolescente amputée pour jouer dans le téléfilm. Et l'histoire de ce téléfilm, c'était ni plus ni moins mon histoire de vie, c'est-à-dire que une jeune fille qui avait eu un accident, qui souhaitait recourir, et donc j'étais exactement dans le même processus, et le même jour mes parents reçoivent le même coup de fil, donc ni une ni deux, on part avec mon papa faire le casting. Grande comédienne que je suis, j'ai pas eu le rôle, très honnêtement. Mais je pense que notre histoire de vie, parce que là, on est quelques semaines derrière l'accident, vont véritablement toucher l'équipe de production et notamment la réalisatrice. Et en fait, je vais faire la doublure de l'actrice principale. Donc, j'étais la doublure jambe, doublure prothèse, on va le dire comme ça. mais en fait, ce tournage de téléfilm a permis en fait que j'ai ma première prothèse de course, puisqu'en fait, on l'a fait fabriquer payée par le tournage du film, oui, dans le cadre de ce tournage-là. Donc c'était un cadeau absolument extraordinaire, et qui derrière, en fait, à l'automne, puisque le film m'a offert la prothèse, oui, j'ai pu en fait moi recourir et me refaire plaisir au travers du sport grâce à toute l'équipe du film. Donc le téléfilm Celle qui reste, et je les remercie sincèrement, ouais, parce que ça a été vraiment une accélération pour moi pour obtenir le matériel.
Parce que je pense que les gens n'ont pas conscience du prix que peut coûter une prothèse. En ordre de prix, ça coûte combien?
Alors généralement on est sur une prothèse totalement montée, c'est-à-dire, mm-hmm, avec la zone d'attache, l'emboîture et le pied, entre 7 et 10 000 euros. Ouais. Donc c'est quand même un budget qui est conséquent. Mm-hmm. Après nous on avait eu la chance d'avoir aussi le secteur associatif qui s'était vraiment beaucoup mobilisé au moment de mon accident, et notamment les pompiers, ce qui m'a permis derrière de m'acheter une prothèse de natation, une prothèse de ski, parce qu'en fait toutes, ouais, ces prothèses-là qui finalement nous permettent de retrouver des loisirs de vie, et ben ce sont des prothèses qui ne sont pas remboursées actuellement par ni par la PCH ni par la sécurité sociale, donc c'est vraiment du financement personnel. Et donc c'est un frein finalement à notre épanouissement, en tout cas moi je le vois comme ça, parce que nos loisirs c'est aussi ce qui conditionne notre, ouais, personnalité, et le fait d'en être privé, je trouve que c'est une privation de certaines libertés.
Puis, c'est pas comme si c'était un caprice, en plus c'est nécessaire.
Nécessaire, en tout cas moi ça faisait partie de mon schéma de vie depuis toute petite. Je faisais du ski depuis le plus jeune âge, j'allais régulièrement à la piscine, courir c'était quelque chose que je faisais, qui fait partie de mon ADN et qui fait toujours d'ailleurs partie de mon ADN. Donc j'avais besoin finalement de tout ça pour continuer à construire ma personnalité et à me sentir bien. Malheureusement, ça a nécessité effectivement une, ouais, levée de fonds assez conséquente.
Ouais. Et du coup, on continue à avancer. Est-ce que tu peux nous raconter les premiers championnats, la première fois que tu ressors en compétition régionale ou locale ou...
Alors, une des premières, ouais, compétitions dont je me souviens, ça va être le championnat de France en, oui, salle. Okay. Mais en fait, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement paralympique, c'était en 2004, hein, donc c'était, ouais, il y a 20 ans. Il n'était pas du tout structuré comme il l'est actuellement. D'accord. Et que, en fait, globalement, il n'y avait pas de critères pour se qualifier au championnat de France.
Voilà. Okay.
Donc, on y arrivait assez facilement. Donc, ça peut paraître de se dire, waouh, elle fait... À peine un an derrière l'accident, elle fait les championnats de France. Oui, mais en fait, il n'y avait pas les garde-fous qu'on a maintenant, parce que le mouvement paralympique n'était pas structuré de la même façon. Mmh. Donc, je participe aux championnats de France. C'est des championnats de France en salle. Et on va me demander de faire le 200 mètres. Voilà, donc, 200 mètres, c'est du sprint. Ça ne correspond pas du tout à mes aspirations, parce que moi, je suis plutôt demi-fondeuse. C'est-à-dire, okay, ce que j'aime, c'est le 800 et le 1500 mètres, parce que ça correspond... ma physiologie de base. Et pour autant, voilà, je vais faire un record de France. Je vais être, je crois, championne de France parce qu'il y avait assez peu d'athlètes élites qui, mmh, participent à cette compétition à ce moment-là, puisqu'on est juste derrière les Jeux d'Athènes. Mmh. Et en fait, cette compétition, elle va me propulser un peu en avant, et surtout, elle va me faire prendre conscience très rapidement que je dois faire le deuil des disciplines que je faisais avant. C'est-à-dire, mmh, que je dois faire le deuil du demi-fond si je veux un jour espérer faire les Jeux paralympiques. Parce qu'en fait, les Jeux paralympiques, effectivement, vous avez l'athlétisme, mais dans ma catégorie de handicap, vous n'avez pas de discipline au-delà du 200 mètres. Donc...
Pourquoi ?
Pour des raisons en fait de densité, de, okay, classification, on n'ouvre pas toutes les épreuves à toutes les typologies de handicap, parce que sinon on ne serait pas suffisamment nombreuses. Donc, okay, en fait l'idée c'est de se dire, ok, on va ouvrir que le 100 mètres, le 200 mètres et le saut en longueur, comme ça concentre les athlètes sur une seule, sur les mêmes disciplines, et ça crée une cohérence d'émulation et de concurrence au niveau international. Donc, okay, ça... Il faut le comprendre, il faut l'accepter, et pour moi ça a été un peu une trahison, hein, parce que, mmh, c'est pas les sports que j'aime à la base, mais à un moment donné ça m'ouvrait l'opportunité de faire les Jeux paralympiques. Donc pendant des années je vais me plier à cette discipline là et puis tâcher de faire de mon mieux.
Puis tu as finalement multiplié, quand on regarde ton palmarès, tu as multiplié les sports, la pratique sportive, et parce que ton palmarès aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
Alors, mon palmarès, il est assez simple. Moi, j'ai 9 médailles aux Jeux paralympiques.
Assez simple.
Réparties sur 4 disciplines, la longueur, le 100 mètres, ouais, le 200 mètres et le 400 mètres, puisque à Rio, il y avait eu une opportunité, mmh, effectivement, de faire le 400 mètres dans ma catégorie de handicap. Après, voilà, il y a des médailles mondiales, des médailles en championnat d'Europe. Donc, j'ai gagné tous les championnats. Je suis encore actuellement détentrice de 2 records du monde.
Ouais.
Mais derrière, c'est au-delà du palmarès. En fait, ce qui est important, c'est ce que ça raconte, c'est les aventures de vie que ça m'a permis de traverser.
Bien sûr.
C'est les médailles, hein, elles cachent aussi énormément d'échecs et de
difficultés. Ouais, mais sur le mur ou dans une étagère, ça va être sympa de voir des médailles olympiques quand même.
C'est ouais, mais tu vois, la médaille de l'échec, il faudrait peut-être les accrocher aussi.
Non, mais bien sûr.
Parce que ça façonne. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris aussi, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas te façonner que dans tes victoires. Et déjà, se façonner au travers de ces victoires, hein, c'est une dynamique mentale qu'il faut travailler. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste dire « Ah, c'est cool, j'ai réussi, c'est quoi la prochaine étape ?» À un moment donné, il faut aussi se poser la question de comment tu as réussi, pourquoi tu as réussi et comment, pour la prochaine étape, tu peux encore faire mieux et te réinventer pour que cette réussite, elle te serve. Et ça, moi, c'est une dynamique que mon coach mental m'a invité à travailler après les Jeux de Londres et qui nous a permis aussi d'avoir une carrière dans la durée. Et puis après, il y a tous ces échecs, en fait, tous ces moments où
qui permettent de grandir.
Qui permettent de grandir, qui te réinterrogent, qui te challengent. Et ces échecs, ils font partie de la vie du sportif de niveau. Ces burn-out aussi mentaux que tu peux faire.
Ouais.
Enfin, tout ça, c'est aussi toute la complexité du sportif de haut niveau où, à l'image, tu parais être un monument, quelque chose de très fort. Mais en fait, on a aussi énormément de fragilité. Et c'est à la fois avec tes forces et tes fragilités que tu construis ton parcours de haut niveau. Il faut juste apprendre à manager tout ça et surtout à le faire en coopération avec tout le staff qui est autour de toi.
Ouais, bien sûr. Enfin, finalement, c'est plus que la performance sportive, c'est un tout.
Ouais, c'est en fait ça se construit dans l'humain. Enfin, à un moment donné, il faut savoir que on parle sport individuel, sport collectif, hein, mais c'est pas parce que tu es dans un sport individuel que tu construis seul ta performance.
Non, oui, évidemment.
C'est toujours tout un collectif de personnes qui sont autour de toi. Il y a les coachs bien évidemment, mais ça va bien au-delà. Tu as ta famille, tu as tes partenaires et finalement, c'est cette alchimie comme ça entre toutes les personnes qui t'entourent et on minimise souvent l'importance du partenaire, mais le partenaire c'est enfin vraiment partenaire, voilà, la marque qui va t'apporter à la fois une sérénité financière, mentale, mais aussi une émulation de groupe, et ben ça fait que quand tu vas à l'entraînement, déjà tu ne te sens pas seul, parce que t'es soutenu, t'es encouragé, parce que quand t'as des moments difficiles, quand t'as des moments de blessure, et ben tu reçois toujours des petits messages comme ça de la part des collaborateurs, et ça, durablement, ça peut changer la donne, parce que le sportif, c'est pas simplement une machine à performer.
Ouais.
C'est aussi quelqu'un qui ressent des choses,
qui
mentalement a des doutes. C'est un humain. Et le fait d'être accompagné par des partenaires qui sont humains, en tout cas, moi, ça a durablement changé la donne et ça m'a permis de franchir des caps et de tenir vraiment dans la durée au travers de 4 Paralympiades.
Est-ce que tu ressens la même émotion en fonction des disciplines que tu pratiques ?
Non, j'ai pas du tout le même ressenti selon les disciplines. Déjà parce que je les aime pas du tout de la même façon et qu'elles ne me confrontent pas aux mêmes difficultés. Globalement, je n'aime pas le 100 mètres. C'est une discipline voilà, que j'aime pas parce que t'es à peine partie que t'es déjà arrivée. Pourtant, je suis championne paralympique du 100 mètres en 2012. Hein.
Ouais.
Mais c'est une discipline que j'ai du mal à affectionner. La longueur, j'aime beaucoup le moment de l'impulsion et de l'envol. Notamment quand tu réussis tes sauts, t'as un sentiment de plénitude et de légèreté qui est vraiment grisante. Mais tu dois faire tellement de mauvais sauts pour sortir un bon saut que c'est un peu usant.
Ouais.
Et vraiment, la discipline que j'adore par-dessous tout, c'est le 400 mètres. Voilà. Parce que c'est une discipline qui est engageante physiquement, parce que t'as beau être le meilleur sur le papier, si le jour J, tu gères pas ta course comme il faut, et ben c'est pas toi qui gagneras. Donc j'aime en fait cette discipline parce qu'elle allie à la fois le physique, le mental, la vitesse et l'endurance, enfin la résistance en tout cas. Et je trouve que c'est vraiment une discipline qui est magique, mais qui est certainement l'une des plus dures en athlétisme.
Et du coup, tu as un souvenir marquant sur un 400 mètres, une victoire, une défaite, un truc qui t'a vraiment marqué, qui a marqué ta mémoire?
Je pense qu'un des moments marquants, ça va être les championnats du monde de Doha en 2015, où voilà, je prends le départ de ce 400 mètres. On est un an avant les Jeux de Rio et c'est la première fois en fait que je vais passer en grande compétition sous la minute. Voilà. Donc, nouveau record du monde, je deviens la première amputée tibiale à passer sous la minute sous 400 mètres. Donc c'est aussi la barrière assez symbolique de la minute. Et je me souviendrai toujours dans le dernier virage des encouragements de mon papa, de ma famille qui était là dans le virage et de les entendre vraiment me porter, me pousser. Donc ça veut dire que j'étais encore très lucide pour entendre, comprendre ce qu'ils me disaient. Et puis derrière, tu as les yeux rivés sur la ligne droite. voilà, sur cette ligne d'arrivée que tu as envie de franchir. Donc, c'est des moments qui sont très, très durs physiquement parce qu'il faut comprendre que tes jambes, en fait, elles se glacent à mesure que tu avances. Ouais. Et pour autant, voilà, tu n'as qu'une envie d'en finir. Et puis derrière, d'un instant que tu vois le chrono, le record du monde, le titre de championne du monde, bah, finalement, toute cette fatigue, elle s'estompe et tu peux très vite partager ce bonheur avec les gens qui t'entourent.
Et j'ai peut-être une question très bête, très basique. On est d'accord que les records para et les records valides sont deux catégories différentes.
Oui, effectivement. Ouais. Il faut savoir qu'on a des records donc, différents entre le monde olympique et paralympique. Mmh. Mais surtout, la subtilité, c'est que dans le monde paralympique, on est divisé par catégorie de handicap, ce qu'on appelle la classification. Et donc, chaque catégorie va avoir son propre record du monde.
Ouais, ok. Donc, on sait qu'il y a des règles autour des sports, des JO, et là, c'est encore plus spécifique.
Ouais, c'est très spécifique. Après, quand on s'y plonge, on arrive à bien comprendre les choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la classification, c'est vraiment le principe, le socle des Jeux paralympiques et qui permet finalement de conférer une équité à chaque personne en situation de handicap qui va participer aux Jeux paralympiques. À un moment donné, la donnée d'entrée est de faire en sorte que ton handicap ne soit pas discriminant dans ta capacité à produire une performance et à gagner une médaille. Donc pour ça, on est catégorisé en fonction finalement de la façon dont notre handicap impacte le schéma moteur dans la discipline pratiquée.
Ok, très clair. Du coup, là, on a fait un petit peu un overview de ta vie de sportive. Mais en fait, tu n'es pas que sportive, tu es aussi aujourd'hui l'une des voix du sport paralympique et tu essayes de démocratiser toutes ces pratiques aux yeux du grand public et Est-ce que tu peux me parler un petit peu de pourquoi, comment est-ce que tu es devenue cette porte-parole du handisport en France ?
Alors, je suis devenue un peu cette porte, l'une des porte-paroles,
parce
que c'est important de rappeler
vraiment
que je suis loin d'être la seule. Je pense que le déclic va se faire à partir de 2011 et notamment en 2012. Une des premières... Un des premiers piliers finalement de cet engagement, c'est quand je deviens marraine du fonds de dotation Telma, qui est en fait un fonds de dotation qui va être créé par deux de mes partenaires. Et c'est très marrant, c'est qu'encore une fois, on est en partenariat depuis maintenant 3 ans. C'est un des premiers partenaires qui me fait confiance. Mmh. Et un jour, les deux patrons me convoquent dans leur bureau. Je me dis, bon mince, oulala, ça veut dire quoi pour l'avenir ? Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Ouais. Et en fait, ils me disent, voilà, Marie, ça fait maintenant 2 ans qu'on vit à tes côtés. Et en fait, on se rend compte que toutes les problématiques que tu nous partages sur le handicap, sur le sport, sur le parasport, eh ben, c'est pas lié à toi, c'est lié finalement à une défaillance du système. Oui. Et on souhaiterait en fait franchir un cap plus grand et créer le fonds de dotation Telma et aider en fait toutes les personnes en situation de handicap du Loir-et-Cher à accéder au sport. Et pas forcément au sport compétition, mais simplement au plaisir et au bonheur du sport. Donc forcément, moi j'accepte de devenir marraine. Et puis derrière, va y avoir un moment très marquant, c'est l'année 2013, où en fait je vais vivre une année... qui aurait dû être l'une de mes plus belles années sportives, parce que je suis championne paralympique, parce que j'ai battu un record du monde, parce que médiatiquement, je suis très exposée. Et pour autant, j'ai véritablement une crise existentielle. Je ne me retrouve plus dans mon entraînement, je vivote et ça ne va pas. Et en fait, je me rends compte que c'est que je me suis réengagée en fait, dans un projet qui est uniquement orienté sur la performance, sur le fait de gagner les Jeux de 2016, alors qu'en fait, l'athlète que j'étais devenue, elle avait vraiment beaucoup changé et qu'elle aspirait à autre chose. Elle aspirait à transmettre et elle se sentait, en fait, au travers de ce titre paralympique, investie d'une mission qui était celle de porter toute une communauté vers le haut et de faire en sorte que cet accès par le sport qui a été très facilité me concernant, ça devienne en fait une évidence pour toutes les autres personnes en situation de handicap. Et en fait, une fois que je comprends que j'ai une mini Marie-Amélie qui s'agite comme ça avec cette volonté de prendre le porte-parole, enfin de devenir porte-parole et d'assurer ce plaidoyer-là, une fois que je le comprends, je vais renforcer en fait mes engagements dans l'associatif, je vais renforcer mes engagements auprès des jeunes scolaires, auprès des entreprises, pour vraiment porter ce rôle jouer ce rôle de plaidoyer pour vraiment aller en faveur de l'accès au sport de toutes les personnes en situation de handicap.
Il faut quand même du courage, de l'audace pour prendre la tête de ce combat parce que c'était pas gagné.
En fait, c'est vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont incité à le faire parce que En fait, j'ai rencontré des personnes absolument formidables, mais qui n'avaient pas l'aura médiatique dont je bénéficiais parce que ce n'étaient pas des sportifs de haut niveau. Ouais. Pour autant, ce qu'ils me partageaient était bien plus pertinent que ce que moi, j'avais pu vivre ou ce que je pouvais ressentir ou ce que je pouvais dire. Et donc, j'ai décidé de me dire, OK, moi, j'ai le porte-voix. Eux, ils ont les idées. Donc, en fait, je vais simplement être une courroie de transmission pour tout ce qu'eux revendiquent et qui est juste que moi, je partage parce que je l'ai vécu, mais peut-être dans des mesures un peu moindres. Et finalement, je vais utiliser ce porte-voix pour porter la voix de tous ces anonymes qui sont en situation de handicap et qui revendiquent quelque chose qui, moi, me semble légitime.
Et il y a quand même un paradoxe parce que la France, on est une nation de sport, si on en croit l'organisation des jeux et même la place médiatique qu'on laisse au sport. Mais pourquoi est-ce qu'en fait on parle très peu des paras alors qu'on a des grands sportifs en paralympique dans les équipes de France? Pourquoi en fait tout ça c'est très occulté?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ce soit occulté médiatiquement parlant, et puis le fait que pendant des années, en fait, on n'a pas fait du sport dans le parcours de vie des personnes sous handicap quelque chose d'important, quelque chose de sanitaire, où justement on l'a réduit au champ sanitaire de la rééducation. Le sport juste utile et pas le sport bien-être, le sport santé, le sport plaisir, le sport compétition selon ce que l'on souhaite faire. Donc voilà, c'est un peu la réalité du parasport actuellement. Et ce manque de médiatisation, il est aussi du fait que on n'a pas forcément eu la bonne narration aussi médiatiquement parlant des Jeux paralympiques. Pendant très longtemps, on ne parlait que de la situation de handicap, du handicap du sportif, sans parler du tout finalement de ses performances, de ses entraînements, de ses ambitions en tant que sportif. Donc tout ça est en train de changer. On voit que le parasport prend une place plus importante dans les médias, qu'on arrive à exister un petit peu en dehors des Jeux paralympiques, qu'on a cette narration qui change aussi parce qu'on a des partenaires et Toyota en est l'un d'entre eux.
J'allais y venir, toi aujourd'hui tu fais partie de la team Toyota et comment est-ce qu'ils t'accompagnent au quotidien?
Et en fait, les partenaires nous accompagnent aussi au travers de toutes les campagnes marketing à parler en fait. Et dès l'instant que c'est nous qui parlons de nos parcours de vie, on centre aussi sur les éléments qu'on a envie de partager. Et donc là, ça fait aussi un élément déclic dans la narration. Et ça, c'est important parce que voilà, tout ce travail qu'on fait avec nos partenaires permet de médiatiser, d'avoir un meilleur accompagnement, une meilleure reconnaissance des sportifs de haut niveau. Mais dans mon cas, Toyota, ça m'apporte bien plus que ça. Ouais. Pour moi, il y a deux autres enjeux avec le partenariat de Toyota. Le premier, c'est la notion du team, parce que le team, ça t'amène à rencontrer d'autres athlètes olympiques, paralympiques, été, hiver, issus de toutes les disciplines. Et ça, c'est une richesse fondamentale parce que quand t'es un sportif de haut niveau, t'as aussi besoin de partager tes choix, ton parcours, tes doutes avec tes pairs, mais pas forcément issus exactement de la même discipline que toi. Voilà. Donc, en fait, on a une richesse des points de vue, des parcours, tout ça animé par vraiment les collaborateurs de Toyota, et ça, je trouve ça important. Après, le deuxième enjeu, c'est la sérénité mentale qu'apporte le partenaire, bien évidemment dans l'accompagnement financier, mais aussi dans le lien aux collaborateurs. Et ça, on en parle finalement assez peu, mais quand tu as des doutes, quand tu as des moments difficiles, le fait d'intervenir devant les collaborateurs, d'avoir des messages de soutien, d'encouragement, ça peut aussi changer durablement la donne. Et le dernier enjeu, et moi c'est vraiment une discussion qu'on a avec Toyota, c'est que Toyota, c'est la mobilité. La mobilité, c'est le maintien dans l'autonomie. Et moi, ça, c'est des enjeux vraiment qui me tiennent à cœur, de voir aussi finalement comment la marque en elle-même, comment finalement tout ce qui est cette vision de la place du sport, de l'importance de la mobilité et de l'autonomie, on peut le retrouver derrière dans les commercialisations qui sont faites par le partenaire. Donc on a vraiment des échanges, voix au chapitre sur tous les enjeux de la mobilité et de l'autonomie, parce que Toyota, c'est plus qu'un constructeur automobile, c'est vraiment la notion de la mobilité pour la personne et quelle que soit sa singularité.
Ouais, mobilité, quand on parle de sportif para, finalement, c'est assez essentiel. Ça fait sens. Et aujourd'hui, ton rêve ultime en ce qui concerne les Jeux para ou les épreuves paralympiques, ce serait quoi ?
Mon rêve ultime, il y en a deux. Ouais. Le premier, c'est sur vraiment la haute performance et permettre à la France vraiment de reconquérir ses lettres de noblesse dans le classement des nations et étendre durablement vers un top 5. Voilà, revoir la France finalement dans ce top 5 des nations paralympiques.
Parce qu'aujourd'hui, pour se faire une idée,
on était 14e.
On est 14e et aujourd'hui, qui c'est qui est en tête de...
On est
classement.
Sur la Chine, les États-Unis.
Comme les
Britanniques aussi. Enfin, voilà. Mais parce que c'est des nations qui ont investi massivement dans le sport paralympique. C'est des nations qui ont des délégations qui sont paritaires. Et ça, c'est essentiel aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, en France, il va falloir aller chercher plus de parasportives et donc des jeunes filles en situation de handicap.
Comme c'est étonnant que ce soit les femmes qui manquent. C'est bizarre. Hein.
Non, mais c'est vraiment dramatique parce que au-delà effectivement du champ de la haute performance, on sait très bien que si on a peu d'athlètes femmes qui font de la compétition, c'est aussi parce qu'on a peu d'athlètes, peu de jeunes filles en situation de handicap qui pratiquent. Voilà. Et à un moment donné, pour moi, notre élite, c'est aussi le reflet de notre base. Mmh. Et plus on aura une élite compétitive étoffée en termes de handicap, en termes de genre, et plus ça voudra dire qu'on aura réussi à démocratiser l'accès à toutes les pratiques sportives pour toutes les typologies de handicap. Donc le premier rêve, c'est celui de revoir la France dans le top 5 des nations aux Jeux paralympiques. Et le deuxième, c'est de ne plus avoir un seul enfant en situation de handicap empêché de faire du sport proche de chez lui en raison de sa situation de handicap. Et ça, voilà, c'est pas un rêve totalement utopique. À un moment donné, il faut juste que le système y change, qu'on refasse de la pratique sportive une évidence pour tous les enfants en situation de handicap et qu'on accompagne nos acteurs de proximité finalement dans leurs compétences, dans leurs capacités à encadrer des jeunes en situation de handicap. Et je suis assez... focalisé sur les jeunes, mais parce que...
C'est l'avenir aussi, c'est normal.
L'avenir et parce qu'à un moment donné, si on ouvre le champ des possibles à nos enfants en situation de handicap, au travers du sport, c'est une prise de conscience de soi, c'est une prise de confiance en soi. Et derrière, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur l'employabilité, elles peuvent aussi se lever un petit peu avec le sport. Le sport n'est pas le remède miracle, mais c'est vraiment un levier qui peut changer durablement les choses.
C'est ça, c'est que c'est un aspect aussi, en mettant en lumière des sportifs paralympique, ça peut permettre d'ouvrir le champ des possibles sur plein d'autres aspects du quotidien.
Oui, et surtout, en fait, s'ouvrir le champ des possibles sur soi-même. Ouais, et aussi. Et moi, je sais que je l'ai vécu parce que qu'est-ce que le sport m'a apporté à l'âge de 15 ans ? À l'âge de 15 ans, le sport m'a permis de me défocaliser du regard que portait la société sur mes incompétences et sur mes incapacités. Parce que c'est ce que j'ai vécu et qui a été très violent à l'âge de 15 ans, c'est que du jour au lendemain, on me voyait comme une petite fille qui avait de l'avenir, qui pourrait être pompier, qui gagnait, qui était une future grande sportive. Et du jour au lendemain, on me voyait que dans ce que j'avais perdu, ce que j'étais plus capable de faire. Et grâce au sport, en fait, j'ai pu un peu reprendre mon destin en main, me revoir dans toutes mes compétences, mes habiletés, mon pouvoir d'agir. Et donc, ça m'a permis vraiment de me voir positivement alors même que la société n'attendait plus rien de moi. Et c'est ce que j'ai vraiment envie qu'on confère aux jeunes qui vont rentrer dans le modèle sportif, c'est de leur dire que ils ont peut-être un schéma moteur qui est différent, schéma moteur ou mental qui est différent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent rien faire. Ça veut juste dire qu'ils font les choses différemment et qu'à un moment donné, dès l'instant qu'on adapte l'environnement, dès l'instant qu'on adapte la règle, ils sont capables de produire de la performance. Et peut-être important de rappeler pourquoi on parle de situation de handicap. On parle de situation de handicap, c'est pas simplement pour que la sémantique elle soit jolie, c'est tout simplement pour déporter la responsabilité de la personne à l'environnement dans lequel elle évolue.
Oui, évidemment.
Voilà. Et c'est l'environnement qui fait que la situation de handicap s'exprime ou non. Et que la personne, elle est capable ou pas de faire des choses. Et quand demain, on pensera à notre espace public différemment, quand demain, on aura des systèmes de mobilité qui seront vraiment adaptés, qu'on aura des méthodes managériales différentes, et finalement, on arrivera, alors pas à 100% à gommer la situation de handicap, mais en tout cas, en limiter la perte d'autonomie.
Et les intégrer à 100% dans la société.
Exactement.
Quoi. Ouais, gros morceau, très très gros morceau. Alors là, je vais te poser quelques petites questions ultra rapides. L'idée, c'est que tu me réponds du tac au tac et si je veux creuser, je creuse.
Ok.
Quelles sont les trois qualités essentielles chez un sportif ?
Audace, persévérance, écoute.
Okay, très clair. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ?
Le bonheur de vivre. C'est en fait c'est bête, mais ouais, juste le bonheur de se dire que la vie elle est difficile mais elle est aussi merveilleuse, et le fait d'avoir des rencontres, c'est terriblement enrichissant.
En tout cas, c'est une très belle réponse. Ce serait trop bien que tout le monde puisse répondre ça. Un conseil d'un coach qui a changé sa façon de t'entraîner.
Une phrase qui m'a été dite par Olivier Deniaux: on ne reconnaît pas un grand champion dans ses victoires, mais dans sa capacité à se relever après un échec. Ça a changé ma vie de sportive, mais aussi de femme.
Bah oui, forcément. On a tendance à diaboliser l'échec, alors qu'en fait... Une femme qui t'inspire ?
Très dur. Quand tu as posé la question, l'image qui m'est venue, Marie-Josée Pérec.
Ouais. Bah oui.
Grande sportive, d'une humilité absolument extraordinaire et d'une gentillesse sans pareil.
Tu dirais quoi à ton moi plus jeune ? Tu lui ferais un check, un câlin ? Tu lui dirais merci ?
Je lui ferai un câlin et après je la regarderai dans les yeux, je lui dirai arrête de râler et avance. Parce que je suis une grande râleuse. Ouais. Alors j'essaie de changer, je travaille sur moi, mais sincèrement je lui dirais ça en fait, arrête de râler, vis ta vie, avance et prends plaisir de ce qu'on te donne à vivre au quotidien.
Bah oui, mais en fait c'est ce qu'on devrait tous dire aux gamins de 15 ans. Ils n'écoutent pas, mais on devrait tous leur dire ça. Qu'est-ce qui fait l'essence d'un grand sportif ?
Son entourage.
Son entourage, ouais. Et la dernière, c'est la question que tu ne veux plus qu'on te pose. Je t'ai peut-être posée d'ailleurs, je suis désolée d'avance.
Non, mais après, c'est important de contextualiser. Mm. Mais en fait, vraiment, toutes les questions autour du handicap, pour moi, ce n'est pas ce qui est essentiel. Après, le chemin, comment on se reconstruit grâce au sport, ça, je trouve ça intéressant. Mais en fait, le côté vraiment très pathos du handicap, c'est des choses sur lesquelles je n'ai plus forcément envie de m'exprimer. Sans vouloir gommer ma situation de handicap, on peut la raconter de façon un peu différente.
Ok, on va arriver sur la fin du podcast. Il me reste 3 petites questions. C'est des questions plus inspirantes. C'est plus pour nos auditeurs, auditrices. Par exemple, le conseil que tu aimerais donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ? Or, vraiment.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un conseil en or, mais véritablement d'avoir de l'ambition dans la vie. Enfin, je trouve qu'en fait, quand on dit quelqu'un qui est ambitieux en France, c'est toujours péjoratif. Ayons de l'ambition, cherchons à réaliser ces ambitions-là. Et quel que soit le résultat final, quand bien même on ne réussit pas ce qu'on a escompté, il y aura forcément eu des apprentissages, on aura forcément cheminé, avancé, et c'est comme ça qu'on progresse. Alors pas forcément qu'on s'épanouit ou qu'on gagne, mais en tout cas qu'il y a une progression et une dynamique de mise en avant.
Là j'ai une option pour toi. Soit tu nous parles de ton mantra qui t'aide à te lever le matin, soit du rituel que tu fais avant une compétition.
Peut-être le rituel compétition, parce qu'il a vraiment évolué. En fait, suite au travail avec mon préparateur mental, je me suis rendu compte qu'en fait, en grande compétition, je m'enfermais totalement dans ma bulle parce que j'étais persuadée que c'était comme ça que j'allais gagner. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en m'enfermant dans ma bulle, je me coupais de ce qui était mon essentiel de vivre, c'est-à-dire mon entourage, mes proches et ceux en fait, qui me donnent la force de réussir. Alors, je ne dis pas que je le fais pour eux, mais en tout cas, d'avoir leur contact, d'avoir les petites étoiles dans les yeux quand ça se passe bien, moi, c'est un véritable moteur qui me permet d'avancer. Et donc, en fait, on a travaillé toute cette routine-là pour faire en sorte que dans ma concentration, finalement, j'aille aussi chercher ce contact à mes proches, à mon coach, pour finalement me nourrir positivement et aller battre des records et gagner de belles médailles.
Donc, finalement, se connecter aux autres, ça aide à aller plus loin.
En tout cas, se connecter aux autres, c'est faire des rencontres, c'est découvrir des parcours de vie, c'est se nourrir, c'est apprendre. Et l'idée, c'est pas de faire du copier-coller. Pour ça, la question de rôle modèle, j'aime pas forcément cette sémantique-là. Mais en tout cas, personnalité inspirante, je trouve ça bien. Et il n'y a pas besoin d'être face à quelqu'un qui a fait des grandes choses pour que cette personnalité soit inspirante. Des fois, ça peut être aussi des personnes totalement anonymes, mais qui, quand ils vous racontent leur parcours, les décisions qu'ils ont prises, les questions qu'ils se sont posées, je trouve que ça nous nourrit et finalement, ça nous aide nous-mêmes à se poser les bonnes questions.
Et du coup, dernière question, on est obligé, année des Jeux, une ou plusieurs sportives à suivre de près cet été ?
Ah, vous êtes dur avec moi parce qu'il y en a plein des sportifs.
En valide, en para. Non, toute la délégation française, du coup. Comme
ouais,
ça,
bah en fait, déjà rappeler que quel que soit le sport que vous allez aller voir aux Jeux paralympiques, et je vous incite vraiment à aller voir les Jeux paralympiques parce que c'est une expérience humaine et sportive absolument extraordinaire. Mais quel que soit le sport, l'arène sportive dans laquelle vous irez au temps des Jeux paralympiques, vous aurez des émotions de dingue. Non, mais il y a quand même des médailles qui sont annoncées en paracyclisme, en paranatation, en paratriathlon. Il y a des belles sessions aussi qui sont attendus en para-judo. Après, le site de Versurman est absolument fabuleux aussi. Et on a des médailles qui sont attendues en aviron et en canoë. Enfin, voilà. En fait, il y a des médailles un peu partout. Tennis, rugby fauteuil. Enfin, voilà. Mais venez, venez, parce que l'équipe de France, elle aura aussi besoin de vous, parce qu'on sait très bien que d'avoir plein de drapeaux de bleu, blanc, rouge dans les tribunes, c'est aussi une capacité à transformer une quatrième place en une médaille, voire en un titre. Donc j'espère vraiment que cette émotion extraordinaire des stades de Londres, où on avait les Anglais qui étaient venus en masse pour encourager, supporter, découvrir les Jeux paralympiques, et ben on aura la même affluence sur les Jeux de Paris 2024. Et c'est vraiment une billetterie accessible, populaire. Ouais. Voilà, donc penchez-y, allez sur le site, achetez vos billets, et on se donne rendez-vous cet été pour vivre des émotions sportives de fou.
Ben, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Marie-Amélie.
Merci.
C'était un plaisir.